Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, croissance négative, inflation à plus de 5%, le paysage économique continue de s'assombrir en France, la bataille pour les promos en supermarché fait rage plus que jamais. 300 millions de dollars en moins chaque jour, c'est l'effet estimé de l'embargo européen sur le pétrole russe. Nous irons à Moscou. Autre sujet de débat au sommet européen, comment éviter une crise alimentaire à cause de la guerre en Ukraine, ce blé bloqué dans les ports. La politique, Emmanuel Macron aux urgences de Cherbourg aujourd'hui, les services manquent de personnel comme ailleurs. Le chaos au Stade de France samedi, les chiffres de faux billets de Gérald Darmanin ne collent pas avec ce que disent les transporteurs. Le président du club de Liverpool demande des excuses. La campagne des législatives dans le Loiret, Jean-Michel Blanquer face à une rude concurrence. Et à 13h30 avec nos invités, toutes vos questions sur les députés. Quel est leur rôle, leur pouvoir réel? Appelez-nous dès maintenant 01 45 24 7000 et l'appli France Inter rubrique Réagir. Conseil municipal animé à Paris ce matin. Rachida Dati se gargarise du score à la présidentielle d'Anne Hidalgo qui lui répond.
Vous pouvez couvrir, je vais le répéter, 1,7%. 1,7%.
Ça m'avait échappé que vous aviez gagné une élection.
Voilà pour Paris, vers la désignation d'une femme à la tête de la CGT. Philippe Martinez passe la main l'année prochaine. Et Nadal Djokovic, le choc ce soir à Roland-Garros, Djoko favori. Dans le 13-14 également.
Ça flash au niveau du feu, fais pas le cacou. Circulation dense, c'est blindé de voitures là-devant.
L'application de guidage Waze inclut accent et expression régionale désormais. Et dans C'est une chanson, le dresseur équestre et cascadeur Mario Lourachi avec Frédéric Pommier. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Le produit intérieur brut, la création de richesses en France, c'est contracté de 0,2% au premier trimestre en France. Chiffre INSEE, qui tablait jusque-là sur une croissance zéro, elle est donc carrément négative. Le variant Omicron en début d'année, la guerre en Ukraine depuis, pèse sur l'économie. Le pouvoir d'achat des ménages est en chute, c'est bien sûr l'effet de la hausse des prix, 5,2% sur un an au mois de mai, c'est l'autre donnée clé de la matinée. Les prix de l'énergie s'envolent, énorme bond atténué par le bouclier énergie. Et en supermarché, au rayon alimentaire en particulier, la bataille des promotions fait rage plus que jamais. On vous raconte ça en deux temps. D'abord, voyons à quel point les clients regardent les prix. Reportage à Bordeaux, Jules Brélaz, France Bleu Gironde.
C'est devenu un réflexe à la sortie de son supermarché discount.
Pommes de terre frites, 2,99€. Le pain de mie.
Johanna épluche son ticket de caisse.
99 centimes. L'emmental français, 1,95€.
L'étudiante bordelaise n'avait pas l'habitude de revérifier les prix, mais là...
C'était assez cher et du coup, j'ai regardé un peu pour voir s'il n'y avait pas des erreurs. Mais non, il n'y a pas d'erreur. Donc ouais, ça augmente les prix.
Tout augmente, c'est catastrophique.
Les étudiants galèrent, les retraités aussi, comme Régine.
Je trouve que c'est terrible.
Ou André, ancien souffleur de verre.
On s'en sort difficilement, pratiquement chaque jour, ils changent les étiquettes, mais c'est plus souvent en augmentation, quoi. Les pâtes, le beurre, le pain.
L'alimentation générale.
Christelle, une commerciale.
Tous les produits frais, les yaourts, le fromage, les fruits et légumes aussi, les viandes, enfin tout. Toute l'alimentation en général, c'est à peu près 20% de plus sur un panier moyen. C'est énorme. Il va falloir quand même expliquer pourquoi les entreprises du CAC 40 font des bénéfices énormes quand tout le monde s'en sort pas.
Dernier exemple, ce jeune ouvrier qui affirme ne plus manger que des boîtes.
Des boîtes de conserve, puisque c'est moins cher.
Alors comment la grande distribution répond à cette attente? Pour les promos, elle cible de plus en plus précisément les clients. Et pour cela, les chaînes ont un atout, la carte de fidélité, qui leur permet de connaître vos attentes et de personnaliser les promotions. Laurent Kramer.
Grâce à l'intelligence artificielle et à l'analyse de milliards de transactions, trois des plus grandes enseignes de la grande distribution ont changé de mode opératoire. Fini la guerre des promotions massives pour attirer le chaland. Chaque client a désormais sa promotion personnalisée, explique Cédric Chéreau, spécialiste du Big Data chez Huntinuts.
Et c'est tout l'intérêt aujourd'hui du Big Data, c'est de pouvoir traiter toutes ces informations-là qui sont extrêmement volumineuses, avec de l'intelligence artificielle et des algorithmes qui permettent de bien identifier les bons produits, les bonnes offres et la proposer à chaque client individuellement.
Car l'algorithme a la capacité de deviner quels sont les produits que le client n'achète pas encore mais qu'il achète nécessairement ailleurs dans un autre magasin. Avec cette analyse, l'intelligence artificielle trouve alors la promotion que le client n'a aucune raison de refuser.
Sur les 6 derniers mois, on a 36% de clients en plus qui se tournent vers ces nouveaux dispositifs promotionnels. Les promotions plus rentables, plus pertinentes pour les consommateurs finaux et forcément plus rentable aussi pour les enseignes et les marques.
Un profilage numérique du consommateur poussé par la fin des magazines promotionnels distribués dans toutes les boîtes aux lettres ou encore la réglementation européenne sur les prix de référence pour lutter contre les fausses promotions abusives en magasin.
Et voilà pour les courses au supermarché. Quant au projet de loi sur le pouvoir d'achat, il sera présenté en Conseil des ministres dans un mois, le 29 juin, après les législatives et soumis au Parlement dans la foulée. Il devrait contenir le chèque alimentaire pour une partie des ménages, la prime nette d'impôts et de cotisations sociales, la prime carburant et la suppression de la redevance audiovisuelle ainsi que l'indexation des retraites sur l'inflation. Inflation qui touche toute l'Europe, plus 8,1% en un an dans les pays qui ont l'euro comme monnaie. Autre sujet de préoccupation avant les législatives, les urgences des hôpitaux en manque de bras. Près de 20% des services d'urgence publics ou privés en France limitent leur activité ou s'apprêtent à le faire faute de personnel. C'est le sujet du jour pour Emmanuel Macron, relativement discret, hors actualité ukrainienne ces derniers temps. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Le président de la République est à Cherbourg aujourd'hui. Alors les urgences, vrai motif d'inquiétude pour les Français, et puis ça permet de parler d'autre chose que du Stade de France.
Oui, rythmer l'agenda médiatique par ses déplacements, une habitude du premier quinquennat qu'il reprend à peine depuis sa réélection. Ce n'est que son troisième déplacement sur le terrain. Le dernier remonte au 29 avril dans les Pyrénées, il y a un mois. Aujourd'hui donc, comme dans l'entre-deux-tours en Alsace, échange avec des professionnels de santé. Paroles rassurantes, plan d'urgence en préparation, concertation, exercice identique prévu après-demain dans une école de Marseille, ce qui rassure pas mal de candidats aux législatives sur le thème. Il va enfin nous aider un peu. Santé, éducation et bientôt première grande ligne des lois pouvoir d'achat, vous en avez parlé avec un Bruno Le Maire à l'offensive. L'association de consommateurs CLCV a à peine eu le temps hier d'alerter sur une probable hausse des prix de l'électricité de 8% en 2023, que le ministre de l'économie réagissait, il n'y aura aucun rattrapage l'an prochain. Numéro 2 et numéro 3 du gouvernement jouent leur rôle de bouclier dans la séquence. Bruno Le Maire sur l'économie, Gérald Darmanin sur les incidents au Stade de France, alors qu'au départ, il devait laisser la nouvelle ministre des Sports en première ligne. Emmanuel Macron profite à plein de ces deux fauves qui voient loin et éclipse pour l'instant Elisabeth Borne, censée porter la majorité dans cette campagne.
Et on parle du Stade de France tout à l'heure avec Richard Place à Londres. C'est avec Pap Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation, qu'Emmanuel Macron ira jeudi à Marseille. Et c'est au prédécesseur de Pap Ndiaye et ses adversaires que nous nous intéressons à présent. Dans 12 jours, les législatives. Arrêt aujourd'hui sur la campagne dans le Loiret, où Jean-Michel Blanquer est candidat. L'ancien ministre de l'Éducation, jamais élu, joue peut-être une partie de sa survie politique dans cette quatrième circonscription où les concurrents sont nombreux et où l'abstention menace. Reportage France Inter, Anne Souhaitement.
Vous allez voter quand même.
Ben, pour la première fois de ma vie où je me pose la question.
Candidat d'hiver droite, Philippe Moreau écluse les marchés pour tenter de jouer sa carte.
Dans votre approche, cette fameuse perle rare, vous préférez quelqu'un qui soit du territoire ou parachuté de Paris ?
Ah, du territoire.
Son atout maître, être du coin.
Donc c'est pour ça que je vous dis que je suis le maire de Nogent-sur-Vernisson.
À quelques mètres, Thomas Ménager, parachuté il y a quelques années, mais candidat de Marine Le Pen, arrivé ici en tête au second tour.
L'objectif, c'est que les gens aient voté. Quand les gens vont voter, quand le corps électoral se mobilise, ce qui est le cas à l'élection présidentielle, nous sommes majoritaires.
Un RN menaçant, moteur principal à en croire Jean-Michel Blanquer de sa décision de se présenter ici, même sans attache.
J'ai souhaité vraiment venir ici, précisément parce que là, il est important d'aller face aux problèmes et d'aller à la conquête de territoires qui, sinon, iront vers le vote protestataire.
Menacé lui aussi par l'abstention, mais surtout par un effet Pécresse, Ariel Lévy, candidat LR.
Les électeurs de droite n'ont pas disparu. Il faut aller les chercher. Pour aller les chercher, il faut leur tenir un discours de vérité sur les sujets qui les préoccupent, l'accès aux soins, le pouvoir d'achat, la sécurité.
Les électeurs du Loiret sanctionneront-ils ? Les parachutés sauveront-ils ? Le soldat Blanquer, c'est très ouvert, concède le député LR sortant, Jean-Pierre Door.
Il y a 10 candidats en tout dans cette quatrième circonscription. Vous en trouverez la liste et d'autres éléments sur cette campagne sur franceinter.fr. Et cette question, quel est le rôle et le pouvoir précis des députés ? C'est à 13h30 avec nos invités. Appelez-nous 01 45 24 7000 ou l'appli France Inter rubrique Réagir. La politique, c'est aussi un moment qui s'annonçait difficile pour Anne Hidalgo. Plus d'un mois après son famélique 1,75% à la présidentielle. Premier conseil municipal à Paris depuis le scrutin. Mathieu.
Il n'aura pas fallu attendre longtemps. Rachida Dati profite d'un rappel au règlement dès le début de séance pour entamer son réquisitoire concernant les absences de la maire de Paris.
Paris vous ennuie. Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%. Oui, ça fait mal.
Le conseil prend alors des allures de cours d'école.
Vous pouvez couvrir, je vais le répéter, 1,7%. 1,7%.
Ça m'avait échappé que vous aviez gagné une élection.
L'élu LR coupe systématiquement la parole. Anne Hidalgo lui répond sèchement.
Cette assemblée ne sera pas dévoyée dans ce cirque pitoyable, médiatique.
La maire de Paris quitte ensuite la présidence de la séance pour laisser la place à son premier adjoint, Emmanuel Grégoire. C'est obligatoire quand il s'agit de l'examen des comptes administratifs de Paris.
Messieurs, mes chers collègues, nous allons suspendre 5 minutes la séance. Il n'est pas question que vous désorganisiez la séance par irrespect, y compris vis-à-vis des vôtres. 5 minutes de suspension.
Mais ce ne sera que la première interruption de séance d'une longue série dans cette matinée très agitée. Au Conseil de Paris, Benjamin Mathieu, France Inter.
Et ce Conseil de Paris est réuni jusqu'à vendredi. Au sein des grands syndicats français, les dirigeants changent. Cette semaine, Frédéric Souillot devrait prendre la suite d'Yves Verrier chez Force Ouvrière. Et à la CGT aussi, il va y avoir du changement. Alors pas tout de suite, congrès en mars de l'année prochaine. Philippe Martinez va passer la main et Maxime Debs, il souhaite qu'une femme lui succède, Marie Buisson.
Oui, et c'est un peu une surprise quand même. Il y a 3 semaines en aparté, Philippe Martinez nous disait encore être plein d'énergie, plein d'idées aussi pour le syndicat. C'est peut-être ici qu'on aurait dû lire, voir se dessiner quelque chose, un possible départ. L'actuel secrétaire de la CGT qui la semaine dernière avait commencé un peu à changer de ton chez nos confrères de France Info. Marc Fauvel l'interrogeait sur l'opportunité de voir un jour une femme prendre sa place à l'avenir. Voici la réponse qu'il avait donnée.
Je souhaite que ça arrive le plus rapidement possible. Vous savez que la CGT a été la première organisation à avoir la parité dans son organe de direction. Ça fait maintenant plus de 25 ans, mais il faut franchir un nouveau cap de reconnaître et de donner la place qu'elles méritent aux femmes comme dirigeantes. Il y a des très grandes dirigeantes à la CGT.
Dans les femmes en question, on pouvait alors imaginer sortir du chapeau possiblement les noms de Sophie Binet ou encore de Céline Verzelletti, habituées des intersyndicales et en première ligne depuis des mois sur les retraites, les salaires. C'est celui de Marie Buisson, donc, vous l'avez dit, branche éducation de la CGT, que Philippe Martinez semble vouloir proposer à ses instances pour lui succéder. Sujet actuellement discuté dans une réunion qui dure depuis ce matin. Une lettre confédérale, nous dit-on, devrait être publiée à son issue.
Et sujet de réflexion pour les syndicats et les entreprises, les pénuries de main-d'œuvre. On parle beaucoup de l'hôtellerie-restauration. Il est une catégorie où les bras musclés manquent, c'est celle des maîtres nageurs, à tel point que certaines communes s'apprêtent à recruter des surveillants moins capés pour pallier le manque. Illustration dans 2 communes de l'Ardèche où la préfecture accorde des dérogations. Damien Triomphe, France Bleu Drôme Ardèche.
À Saint-Michel-de-Chabrianoux, le maire a cherché pour la piscine du camping municipal un maître nageur.
On met des annonces, on passe par Pôle emploi, on n'a rien, c'est de la folie quoi. Sur l'Ardèche, on trouve rien.
Alors Gilles Lèbre a obtenu une dérogation de la préfecture pour qu'un jeune titulaire du BNSSA, moins qualifié, assure la surveillance. Encore fallait-il le trouver.
C'est une association qui est sur Cahors, dans le Lot, et qui a pu me dépanner pour avoir justement un surveillant de baignade.
20 ans, il surveillera la piscine. Les titulaires du BNSSA, à la différence des maîtres nageurs, n'enseignent pas la natation et sont moins expérimentés. À la piscine de Saint-Péret, qui a eu aussi une dérogation, ils seront là pour compléter les plannings, obligés pour pouvoir ouvrir. En vrai, les jeunes sont sursollicités eux aussi cette saison. Olivier Vieclave est responsable de leur formation à l'association à Saint-26 pour la Drôme et l'Ardèche.
Avant, on avait 3-4 appels, mais là, je dois être à 10-15 appels depuis le mois de mai par les maires, par les chefs de bassin. On a même des gens qui nous appellent du VAR pour savoir si on a des bénéficiaires.
Lui parle même d'une surenchère sur les salaires et les conditions de travail pour attirer la 50aine de jeunes qu'il a formés cette année.
À Angers, près de 6 ans après l'effondrement d'un balcon qui avait provoqué la mort de 4 étudiants en 2016, le tribunal correctionnel condamne à de la prison avec sursis le patron de l'entreprise de construction, le chef de chantier et le représentant du bureau de vérification. L'architecte et le conducteur des travaux sont relaxés. À Belfort, l'intersyndicale de General Electric dépose une plainte pour blanchiment de fraude fiscale. Ils accusent le groupe américain d'évasion fiscale.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvy.
C'est à l'européenne un compromis, pas du 100%, mais tout de même une décision marquante. L'Union européenne va priver la Russie d'un chèque d'environ 300 millions de dollars par jour embargo sur le pétrole à 90% d'ici à la fin de l'année. Le pétrole livré par bateau, exemption pour la livraison par oléoduc, ce qui permet d'obtenir l'accord de la Hongrie, enclavée et très dépendante de la Russie. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Bruno.
Vous êtes en direct de Moscou, vous qui êtes notre correspondant. C'est la sixième vague de sanctions européennes. Alors évidemment, elle aura des effets en Russie, mais d'après beaucoup d'experts chez vous, la Russie peut les surmonter.
Oui, le pétrole, hein, c'est 20% des recettes d'exportation de la Russie et l'Europe en représente pas loin de la moitié. Mais la Russie a les moyens de trouver d'autres clients. C'est en tout cas effectivement ce que pensent pas mal d'experts ici. On pense beaucoup à l'Inde, qui est le troisième importateur mondial de pétrole, mais qui ne représente que 1% des exportations russes. Moscou et New Delhi se sont rapprochés en plus ces derniers temps. Et puis il y a la Chine aussi, qui elle déjà importe beaucoup de pétrole russe. Alors ces mêmes experts estiment aussi que la Russie, pour vendre son pétrole vers l'Asie, sera obligée de le brader, probablement 20 à 30% en dessous du marché, mais tout cela dans un contexte de forte hausse des cours. Hein. Sur les quatre premiers mois de l'année 2022, les revenus pétrole plus gaz de la Russie ont doublé par rapport à 2021. Donc la hausse des cours compense pour l'instant la baisse des volumes. Et ce que cela veut dire, c'est que cet embargo aura des effets, c'est clair, des conséquences, mais elles ne seront pas immédiates, peut-être pas aussi brutales qu'on pourrait le penser. Tout cela en gardant bien à l'esprit que l'objectif est de couper Moscou des ressources qui lui permettent de financer la guerre.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou pour France Inter. Ce sixième train de sanctions a été acté la nuit dernière lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement européens. Sommet qui continue. Ce matin, autre sujet en lien avec la guerre en Ukraine. Comment éviter une crise alimentaire alors que les exportations de blé russe et ukrainien sont largement bloquées? Angélique Boin, vous êtes avec Sandrine Malon en direct de Bruxelles. Le président de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, est intervenu en visioconférence ce matin pour alerter les dirigeants européens.
Oui, les stocks de blé pourrissent dans le port d'Odessa notamment. Il faut les vider au plus vite pour entreposer les nouvelles récoltes, éviter une famine en Afrique et une flambée des prix. Alors pour le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, eh bien Vladimir Poutine utilise ce blé comme une arme de guerre et il faut, reconnaît-il, au plus vite négocier un corridor.
On est en train de voir de quelle manière on peut faire sortir les 20 millions de tonnes de blé ukrainien. C'est pas facile. Il faut évidemment un accord avec la Russie pour utiliser la voie maritime. Mais ça, c'est un sujet d'une énorme importance. On ne peut pas affamer le monde.
L'option défendue par les Nations Unies et plusieurs capitales, dont Paris et Berlin, consisterait à obtenir de Moscou un engagement ferme à ne pas attaquer le port d'Odessa, des garanties suffisamment sérieuses, en tout cas pour obtenir de l'autre côté des Ukrainiens qu'ils déminent la zone maritime qui le protège. Mais pas simple de faire confiance à Poutine. La Turquie joue en ce moment les médiateurs. Pékin pourrait aussi faire pression sur Moscou pour éviter une crise alimentaire mondiale. C'est en tout cas l'espoir des Européens, confie ici une source diplomatique.
Et Vladimir Poutine se dit prêt ce matin à discuter avec la Turquie de corridors sécurisés en mer Noire pour le transport des céréales ukrainiennes. Le ministre russe des Affaires étrangères doit aller en Turquie mercredi de la semaine prochaine. Angélique, qu'en est-il de la piste d'un transfert des céréales via la Biélorussie pour rejoindre au nord la mer Baltique ?
Eh bien, elle est aussi sur la table des 27, mais la plupart d'entre eux l'ont écartée à leur arrivée à ce sommet. La route serait beaucoup plus longue et puis c'est tout de même difficile de faire affaire avec le principal allié de Moscou, qui plus est sous sanctions, ont déclaré plusieurs dirigeants européens.
Angélique Boin en direct de Bruxelles avec Sandrine Malon pour France Inter. Répondre donc à cette crise alimentaire qui monte, mais attention aux mauvaises réponses. C'est l'alerte, cette fois lancée à Paris, par le Comité catholique contre la faim, CCF des Terres solidaires, qui pointe la Chine. Valentin Brochard avec Célia.
Cette flambée des prix, elle peut aussi et fortement s'expliquer en fait par la mise en place et la multiplication de réponses contre-productives un peu partout dans le monde et par de nombreux acteurs. La première, c'est la multiplication des constitutions de stocks alimentaires un peu en urgence pour nourrir la population nationale. D'ici la mi-2022, on estime que la Chine, elle détiendra 62% des réserves publiques de maïs mondiales, 60% des réserves de riz et 51% des réserves de blé. Ces réponses contre-productives, c'est aussi la cessation des exports. Actuellement, c'est plus de 18 pays qui ont mis en place ces types de mesures pour protéger en fait leur sécurité alimentaire nationale, et ça perturbe grandement les échanges internationaux et ça tire les prix vers le haut. C'est à peu près 17% des échanges internationaux qui actuellement ne sont pas exportés pour nourrir les populations nationales. Et enfin, dernière mesure, en période de flambée des prix de l'énergie, c'est plus rentable pour de nombreux agriculteurs de faire du biodiesel ou des agrocarburants que de vendre directement leur production. Ça participe à une tendance haussière.
Et en Ukraine, les troupes russes continuent de progresser dans l'est du pays. Elles occupent désormais une partie de la ville de Severodonetsk. C'est ce que reconnaît le gouverneur de la région. En Centrafrique, un employé local de Médecins sans frontières a été tué par un militaire. C'est ce qu'annonce l'organisation ce matin. Ça ne passe toujours pas. La version gouvernementale de la soirée de samedi au Stade de France qui fait des supporters de Liverpool venus avec de faux billets, les principaux responsables du chaos, peinent toujours à convaincre. D'abord parce que ça ne colle pas avec les chiffres fournis par les entreprises de transport. À Géraldine Allot du service investigation de Radio France, 69 200 personnes samedi soir sur la ligne 13 du métro dans les RER B et D, plus 16 000 dans des bus et autocars, on arrive à 85 200, à peine plus que la capacité du Stade de France, où sont les 30 à 40 000 personnes avec des faux billets ou sans tickets évoqués par le ministre de l'Intérieur. Autre chiffre clé, aucune garde à vue pour détention de faux billets selon le parquet de Bobigny. Et puis c'est à Liverpool, dont l'histoire a été marquée par un mouvement de foule qui avait fait 97 morts il y a plus de 30 ans, que cette façon de présenter les choses passe le plus mal. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
Richard, le président du club de Liverpool veut des excuses.
Oui, le Liverpool Football Club s'étonne tout d'abord de ne pas avoir été convié à la réunion d'hier à Paris, pas même sollicité pour fournir des informations. Et la conférence de presse de Gérald Darmanin et d'Amélie Goudéa-Castéra qui a suivi a littéralement ulcéré le président des Reds. Tom Werner adresse une lettre au ministre où il demande des excuses. Vos commentaires étaient irresponsables, non professionnels et totalement irrespectueux envers les milliers de supporters touchés physiquement et émotionnellement. Dans une vidéo, c'est le directeur général Billy Hogan qui enfonce le clou.
We are incredibly surprised.
Nous sommes incroyablement surpris qu'une personne dans cette position fasse des commentaires à ce stade quand nous n'avons pas encore eu le temps nécessaire pour comprendre ce qui s'est passé. Ce genre de déclaration à cet instant, avant l'ouverture d'une enquête, c'est complètement inapproprié.
Le club demande aux supporters qui étaient à Saint-Denis de remplir un questionnaire sur son site. Ils doivent raconter leur expérience dans le détail et envoyer toutes les preuves dont ils disposent, photos et vidéos, des informations que Liverpool entend communiquer à ceux chargés de faire les enquêtes.
Et ajoutons les supporters qui se sont fait détrousser. Quelques personnes mal intentionnées ont profité du chaos samedi. 6 sont jugés cet après-midi à Bobigny. Comparution immédiate pour vol de portables et bijoux avec ou sans violence. Ce qui a contribué au chaos samedi, c'est aussi la grève sur la ligne B du RER qui mène au Stade de France. Eh bien, un nouvel appel à la grève est lancé pour vendredi, jour du match France-Danemark en Ligue des Nations. Combien de fois encore les super-héros du tennis s'affronteront-ils dans un grand match? 21h ce soir en quart de finale à Roland-Garros, Nadal, Djokovic. C'est sur Amazon Prime Video, l'appli mobile ou le site web, mais exceptionnellement on pourra le suivre gratuitement sans même se créer de compte. Petit avantage au Serbe qui est plus en forme, Fabrice Abgral.
Raphaël Nadal sait qu'il n'aborde pas ce choc dans les meilleures conditions. Il est en proie au doute et clairement dans l'expectative. Et pour cause, il est arrivé à Paris sans avoir pu se préparer comme il le souhaitait. Tout ça en raison d'une fracture de fatigue à une côte, sans parler de cette blessure récurrente au pied gauche. Sa victoire au forceps en 5-7 dimanche face à Félix Auger-Aliassime n'est pas là non plus pour le rassurer avant de défier Djokovic.
Je n'ai pas de certitude à 100% car je n'ai pas eu de test contre lui depuis un moment. Mon dernier affrontement face à lui date de l'année dernière, ici même. Et en plus, je n'ai pas joué de match aussi exigeant lors de ces 3 derniers mois. Donc ça va être un grand défi pour moi.
Affronter Nadal sur terre battue, c'est un défi à la hauteur de ce que représente l'Espagnol titré à 13 reprises depuis 2005. Alors le battre, c'est un exploit monumental. Novak Djokovic mesure le défi qui se présente à lui.
C'est toujours une bataille physique qui se produit en plus de tout le reste. Donc c'est un défi colossal, certainement le plus grand que l'on puisse avoir ici à Roland-Garros. Mais je suis prêt.
Raphaël Nadal n'a perdu que 3 des 112 matchs qu'il a disputés porte d'Auteuil depuis 17 ans. 2 de ces 3 défaites, l'Espagnol les a subies précisément face à Djokovic en 2015 en quart de finale et l'an passé en demi-finale.
C'est donc à 21h sur le court Philippe Chatrier. Avant cela, autre beau quart de finale en perspective dans le tableau masculin, Zverev Alcaraz. Dans le tableau féminin, là aussi, les deux premiers quarts de finale, avantage pour l'instant à l'Italienne Martina Trevisan face à la Canadienne Leila Fernandez. Elle a remporté le premier set. Les deux Américaines Coco Gauff et Sloane Stephens joueront ensuite l'une contre l'autre. Respect de la diversité, inclusion, l'un des mantras de l'époque se glisse jusque dans l'habitacle de votre voiture. Peut-être utilisez-vous Waze, cette application de guidage au volant. L'itinéraire est indiqué à l'écran et si vous le souhaitez, une voix vous indique quel chemin prendre. Eh bien, les voix enregistrées s'enrichissent. On peut désormais choisir une version avec l'accent, Manon Vautier-Cholet.
Et c'est exactement ça, avec trois nouvelles options au choix. Elles sont disponibles dans l'onglet voix des paramètres. Vous pouvez donc choisir l'accent ch'ti.
Ok, en caractère tos.
Avec Bilout qui lance ici le départ, l'accent toulousain.
Si tu veux pas finir dans le Bartas, attention.
Avec Antonin cette fois qui incite à la prudence et puis l'accent provençal.
Eh ben voilà, on y est, bonne mère.
Vous entendez cette fois Mireille qui prévient de l'arrivée à destination. L'application aux 17 millions d'utilisateurs a décidé d'ajouter ses accents régionaux pour être plus ancré localement. Jérôme Martier, le directeur général de Waze France.
On a la vocation effectivement d'être une application qui doit refléter, je dirais, la diversité du territoire français. Et ça apporte, je dirais, cette petite touche d'originalité, puisque c'est vrai qu'on a très souvent un seul et même accent qui revient. Moi, étant né à Toulouse, voilà, j'étais très content de revoir l'expression boudu. La grande idée serait de pouvoir retrouver l'ensemble des accents français sur l'application.
Alors, en attendant, pour choisir les trois premiers, Waze en fait a fait voter ses internautes sur Twitter et sur Facebook. L'accent toulousain, par exemple, a largement gagné face aux Alsaciens et aux Savoyards avec 45% des votes. Et les trois nouvelles voix de l'application sont interprétées par des comédiens.
Allez, un tout petit peu plus de finesse à présent. L'intégralité des 103 mélodies écrites par Gabriel Fauré, compositeur français qui a vécu au tournant des 19 et 20e siècles. Cette intégrale vient d'être enregistrée et c'est le ténor Cyril Dubois qui porte ce triple album, Stéphane Capron.
Il a fallu 3 ans à Cyril Dubois et au pianiste Tristan Raez pour mener à bien ce projet titanesque et donner une couleur à cet album qui montre l'évolution des compositions de Gabriel Fauré tout au long de sa carrière.
On connaissait, je dirais, une petite moitié des mélodies de Gabriel Fauré. Donc pour nous, c'était aussi l'occasion de nous plonger dans l'intégralité de son corpus mélodique et nous donner une vision globale de son travail et voir aussi comment, sur plus de 60 ans de l'histoire de sa vie, la mélodie avait évolué avec son temps, passant d'une forme qu'on appelle la romance, qui avait été composée par des compositeurs comme Gounod, comme Massenet, jusqu'à des choses qui nous sont beaucoup plus modernes, comme Claude Debussy ou Maurice Ravel.
Cette anthologie Fauré est aussi une anthologie de la poésie française.
Au début de sa vie, il a des choix de poèmes beaucoup plus classiques, tels que Victor Hugo, par exemple, ou Théophile Gautier. Et puis, au fur et à mesure, il va vers justement des poètes qui sont presque assez peu connus, comme Jean de la Ville de Miremont, qui était le dernier qu'il a mis en musique dans ses Horizons chimériques.
Cyril Dubois a adapté l'enregistrement à sa voix de ténor, car Gabriel Fauré composait les mélodies pour des voix de femmes, et cela donne un album d'une grande pureté.
Dans un sommeil que charmait ton image, je rêve.
Extrait d'Après un rêve, l'une des compositions les plus célèbres de Gabriel Fauré dans cette intégrale des 103 chansons enregistrées par le ténor Cyril Dubois. C'est sur le label Aparté. On célébrera en 2024 les 100 ans de la mort de Fauré. La météo dans un instant.
Bonjour madame, nous comptons vous cambrioler demain. Vous serez bien à votre travail?
Ah oui, absolument. Écoutez, vous pouvez pas rater la maison, c'est celle avec la pancarte au Omiris. Ah, tiens, mais il a raccroché.
On est tellement plus détendu quand on est protégé par Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, le bon rapport sécurité-prix, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par UPS, agréé CNAPS.
Saison 2022-2023 de l'Auditorium de Radio France.
Daniel Trifonov,
Gilberto Gil,
Christian Macellaro,
Mico Franck,
Hilary Anne,
Lucie Dola,
Renaud Capuçon,
Lionel Sow,
Sophie Jeannin,
Ibrahim Malouf,
Ricardo Muti,
Barbara Nigan,
Susanna Malki,
Le Quatuor Ébène.
Entrez au cœur du concert.
Abonnez-vous dès maintenant sur maisondelaradioetdelamusique.fr.
Le temps de ce jour.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
La journée est agréable, mais il y a des averses sur le centre-est.
Oui, du massif central vers le Jura et les Alpes. Pas mal de nuages et des averses, voire un coup de tonnerre sur le nord des Alpes cet après-midi. Entre les frontières du nord, la région parisienne et le nord-est, on a des nuages qui se développent. Parfois une averse, on garde quand même des éclaircies. Sur les Pyrénées, là aussi une averse possible. Et puis ailleurs, le soleil domine. Ça n'empêche pas quelques nuages de temps en temps, mais sans conséquence. Les températures, elles montent un petit peu. Alors 16 degrés attendus à Étretat, 18 à Lille, 21 degrés à Paris, 23 degrés à Tours et à Lyon, 25 pour Strasbourg, pour Cognac, 27 degrés du côté de Toulouse et de Bastia et 28 à Marseille. Demain, ce sera à nouveau instable du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers le Jura et la région Rhône-Alpes avec des averses, parfois de l'orage l'après-midi. Ailleurs, du soleil et des températures en hausse, elles seront chaudes au sud demain, 26 à 32 degrés attendus.
Élodie Calac, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
À 12 jours des législatives, cette question jusqu'à 13h45, à quoi servent les députés? Nos deux invités ont un profil emblématique du renouvellement réel mais partiel qui s'était produit à l'Assemblée il y a 5 ans. Deux femmes, 39% des députés étaient des femmes ces 5 dernières années. On n'est pas encore à la parité, mais néanmoins c'est un record. Et elles se présentent à nouveau cette année. C'était en 2017 leur premier mandat. Lauriane Rossi, députée En Marche, candidate Ensemble, la majorité présidentielle, néo-élue donc à l'époque, mais pas tout à fait novice en politique. Elle avait notamment été collaboratrice parlementaire auparavant. Et puis Caroline Fiat, députée La France Insoumise, candidate de la NUP cette année. Elle arrivait-elle d'un univers complètement différent il y a 5 ans? Elle fut la première aide-soignante au Palais Bourbon. Alors que l'Assemblée est de plus en plus présentée comme une simple chambre d'enregistrement de décisions prises ailleurs, entre l'Élysée et les ministères, de quelle marge de manœuvre disposent les députés pour faire entendre leur voix, faire avancer un dossier, exprimer un désaccord avec les choix du gouvernement, que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition? Rappelons que les députés ont 3 grandes missions: élaborer la loi, contrôler l'action du gouvernement et faire remonter du terrain la parole des habitants de leur circonscription, ce petit morceau de France dans lequel ils sont élus. Quels sont les pouvoirs des députés? Toutes vos questions 01 45 24 7000 ou l'appli France Inter. Et bonjour à nos deux invités. Bonjour Lauriane Rossi.
Bonjour.
Et bonjour Caroline Fiat. Commençons avec vous Caroline Fiat. Un dossier, une idée, un amendement, une proposition de loi que vous avez réussi à faire avancer ces 5 dernières années?
Bah, je pense que c'est le dossier, le travail sur les EHPAD, où ça a été mon premier discours à l'Assemblée et où, un peu têtu quand même, je n'ai rien lâché, un rapport parlementaire et le fait de répéter sans arrêt, très régulièrement, les demandes qui font que c'est devenu le sujet dont on a beaucoup, beaucoup parlé dans l'hémicycle.
Et vous travailliez, me semble-t-il, juste avant d'entrer à l'Assemblée, de nuit dans des EHPAD, hein, c'est bien cela. Est-ce que le fait, justement, de venir très précisément de ce terrain-là, vous donnait une assise supplémentaire en tant que député, une aisance pour parler du sujet et pour convaincre éventuellement vos collègues?
Ça m'a donné une facilité, en tout cas une légitimité dans cet hémicycle où je me sentais relativement illégitime. Et du coup, je pense que c'est ce qui m'a permis d'être à l'aise sur ce premier dossier, en sachant qu'au départ, je parlais des établissements de santé, même si après, c'est venu sur les EHPAD. Ouais. Et après, ça m'a permis de me dire que je pouvais défendre tous les dossiers et m'ouvrir sur d'autres sujets.
Pourquoi vous vous sentiez légitime?
Parce que moi, je ne devais pas gagner, je ne devais pas être députée. Ça a été une surprise pour tout le monde et surtout pour moi-même, mon élection. Voilà, être soignante, je n'étais pas élue auparavant, je connaissais pas ce monde, encore moins proposition de loi, amendement, c'était pour moi des mots que je ne maîtrisais pas, et c'était très compliqué. Donc prendre un sujet pour lequel j'étais sûre de maîtriser les tenants et aboutissants, ça me permettait au moins là-dessus de me sentir légitime.
Et très sincèrement, au bout de combien de temps, et je donne ensuite la parole à Lauriane Rossi, au bout de combien de temps, Caroline Fiat, vous êtes-vous sentie à l'aise? Au bout de combien de temps est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir le job en main, si j'ose dire?
3 ans.
3 ans?
Il y a eu un moment donné, un déclic où vous vous levez, vous prenez le micro et vous parlez sans feuille. Et là, vous vous dites, ça y est. T'as compris comment ça fonctionnait.
Lauriane Rossi, même question. Alors vous connaissiez un peu plus le monde politique, mais au bout de combien de temps est-ce que vous vous êtes sentie, je dirais, assise, pleinement assise dans votre fauteuil de députée?
Mais ça prend du temps, Caroline Thiat vient de le dire. Moi-même, j'étais cadre dans le secteur des transports et du logement. Et bien avant, effectivement, j'avais 10 ans auparavant aidé un sénateur. Mais c'était tout nouveau pour moi aussi. Jamais je n'aurais imaginé être élue députée à 33 ans à l'époque. J'en ai 38 aujourd'hui. Évidemment, il faut se familiariser avec la fabrique de la loi, avec un langage qu'on maîtrise pas forcément, avec le droit, avec les rouages institutionnels. Et tout ça, ça prend un peu de temps. Mais je crois qu'on peut être fier de l'Assemblée nationale que nous avons. Elle est, je crois, à l'image de la société. Nous avons des personnes qui viennent de tous horizons, qui ont des parcours professionnels très, très riches. Mmh. Et c'est ça qui fait notre démocratie. Moi, j'ai la fierté d'avoir porté plus de 5000 amendements. Je suis dans la majorité, mais ça m'empêche pas d'amender les lois, de tenter de les modifier, de faire passer de nouvelles réformes. Je pense notamment à l'interdiction du plastique dans toutes les cantines scolaires, de la crèche à l'université. Ça a été un combat d'un an et demi, pour faire passer cette modification de la loi et qui a fini par être votée à l'unanimité. Donc, on peut aussi trouver des compromis transpartisans avec l'ensemble des députés sur des sujets majeurs.
À quel moment les députés, de votre point de vue, ont-ils le plus de pouvoir ? Est-ce que c'est au moment du vote de la loi ? Est-ce que c'est au moment de son élaboration ? Vous êtes toutes deux et comme tous les députés dans une commission où se prépare la loi. Est-ce que c'est au moment des questions au gouvernement ? Quand est-ce que vous avez le sentiment d'avoir le plus de pouvoir ?
Nous avons évidemment du pouvoir quand nous examinons la loi, quand nous la débattons, puisque nous pouvons la modifier. C'est ce que l'on appelle les amendements. Et nous ne nous privons pas d'en déposer et certains sont votés et c'est toujours une victoire. Et puis après, nous avons le pouvoir de contrôler et d'évaluer les lois. Mmh. Nous ne le faisons pas suffisamment d'ailleurs. Je crois que c'est vraiment un chantier pour l'avenir, nous permettre à nous, députés, d'avoir plus de moyens pour contrôler, pour évaluer et vérifier dans nos circonscriptions, dans nos villes, moi-même dans les Hauts-de-Seine, à Bagneux, Malakoff, Montrouge, et bien si la loi que nous votons est bien appliquée, si elle produit des effets. Parfois, elle peut poser problème aussi, donc on les fait remonter, ces problèmes-là, ces difficultés, au gouvernement. Et donc, on a ce rôle-là, je dirais, entre nos territoires et l'Assemblée nationale.
Et je précise tout de suite que même si vous êtes candidate toutes les deux aux législatives, on ne parlera pas de vos circonscriptions pour des questions de temps de parole. Avant d'entendre les auditeurs de France Inter, Lauriane Rossi, encore une question. Vous êtes questeur à l'Assemblée. C'est quoi le rôle du questeur, de la questeure en ce qui vous concerne?
Oui, c'est un mot un peu technique. Nous sommes trois députés à être questeurs de l'Assemblée et ces trois députés dont j'ai l'honneur de faire partie ont la charge en fait du budget de l'Assemblée nationale, de ses moyens matériels, humains. Nous avons également la charge du contrôle des frais de mandat des députés puisque nous sommes désormais contrôlés à l'euro près depuis 2017. Et donc c'est une charge importante. En plus de notre travail de député, nous avons en quelque sorte la responsabilité de bien gérer cette institution. Et c'est nous qui engageons les dépenses.
Allez, question très concrète de François-Xavier au Standard. Bonjour François-Xavier.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Merci de me donner la parole. J'imagine la charge de travail très importante des députés. Et je me posais la question, quelle est la répartition entre le temps consacré aux travaux à l'Assemblée nationale Madame Rossi vient de parler du travail des commissions et certainement de la présence à l'Assemblée, et le temps réservé aux citoyens sur leur territoire.
Caroline Thiat, l'emploi du temps d'une députée, quel est-il ?
Alors, je vais vous répondre que tout dépend dans quel groupe vous êtes. Moi, j'étais dans un groupe parlementaire où nous n'étions que 17. J'étais beaucoup plus souvent à l'Assemblée nationale et en train de préparer les dossiers parce que on était très peu nombreux.
C'est le groupe LFI, je le rappelle.
Et plus le fait que, il m'a fallu un grand temps d'adaptation pour réussir à décortiquer tout le travail législatif. Mais en moyenne, c'était du lundi soir au jeudi, vendredi dans l'hémicycle et les week-ends en circonscription. Mais après, il y a des fois, période projet de loi de financement de la sécurité sociale, vous pouvez être sûr que c'est pendant 3 semaines du non-stop, du lundi au dimanche à l'Assemblée nationale.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a le risque de perdre un peu le contact avec les électeurs ?
Alors, il y a ce risque, on essaye de garder le contact avec nos équipes, nos assistants parlementaires qui sont aussi sur le terrain, avec les élus. Et d'où la grande importance d'avoir un vrai travail avec les élus locaux qui nous remontent les dossiers, qui nous remontent les problématiques avec les syndicats, avec les personnes qui, malgré qu'on ne soit pas présent physiquement sur le territoire, vous font remonter les informations. Mais quand même, quand on est en circonscription, on essaie de privilégier les temps de présence sur les endroits où il y a difficulté en priorité et accessoirement où ça va bien aussi pour rappeler que tout ne va pas mal par moment dans notre pays.
Question de Jacques au standard. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour. Au-delà de la fonction du député, ce que je trouve intéressant de poser, c'est la question du nombre de députés. On a 577 députés et accessoirement 300 et quelques sénateurs. Pourquoi ça fait 6 députés par département? A-t-on besoin d'autant de députés pour faire des lois à un moment où tout le monde se plaint qu'il y a trop de lois et que ça freine l'activité et les initiatives?
Et j'ajoute, Lauriane Rossi, que le président Macron voulait supprimer un tiers des députés. C'était un projet de réforme qui n'a pas pu aboutir dans le premier quinquennat. Est-ce qu'il faut réduire le nombre de députés?
Vous avez raison de le souligner, c'était un engagement d'Emmanuel Macron en 2017. Nous avions une réforme constitutionnelle en cours qui consistait à réduire de 25% le nombre de parlementaires, députés et sénateurs. Nous n'avons pas pu aller au bout de cette réforme qui comprenait également une dose de proportionnelle et puis une réforme du mode de scrutin. Le chantier demeure ouvert et d'ailleurs il s'ouvrira dans les prochaines semaines puisque le président de la République a annoncé l'installation d'une convention transpartisane qui réfléchira à toutes les évolutions que nous pourrons apporter à nos institutions. Et je pense que la baisse du nombre de parlementaires en fait partie, effectivement. Si on veut un Parlement plus efficace et plus fort, peut-être qu'il faudrait être un petit peu moins nombreux, ce qui permettrait aussi de faire quelques économies à l'Assemblée nationale. Là, c'est la questeur qui parle. Oui. Nous avions chiffré à 70 millions d'euros l'économie générée, ce qui permettrait de renforcer nos pouvoirs de contrôle et d'avoir plus de moyens pour évaluer, pour contrôler la loi.
Alors, contrôler la loi et contrôler l'action du gouvernement, allons-y sur cette question. Par exemple, il y a le député d'opposition Éric Ciotti qui demande une commission d'enquête parlementaire sur les événements de samedi dernier au Stade de France. De quels moyens disposez-vous quand vous formez comme ça une commission d'enquête parlementaire? Lauriane Rossi.
Alors, nous avons la possibilité, en tant que parlementaire, effectivement, d'installer des commissions d'enquête ou des missions d'information. Le but, c'est effectivement de faire la lumière sur un sujet ou un événement d'actualité. Et c'est le rôle du Parlement que de contrôler, évidemment, l'action du gouvernement. Pour cela, donc, chaque groupe politique a la possibilité de faire cette demande, et c'est important de le rappeler, y compris l'opposition. C'est un droit constitutionnel. Évidemment, nous avons ensuite des moyens, c'est-à-dire la possibilité d'auditionner toute personne ou toute institution de notre choix. Nous avons également des collaborateurs, des fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui peuvent nous aider dans cette mission pour ensuite rédiger un rapport qui est rendu public.
La force, me semble-t-il, parce que là, il y a un vrai pouvoir des députés, c'est que les personnes que vous convoquez, un, sont obligées de venir et deux, s'expriment sous serment.
Tout à fait. En commission d'enquête, les personnes prêtent serment et se doivent de dire la vérité.
Avec des pouvoirs d'enquête supplémentaires. Quel a été au fil des 5 ans, Caroline Fiat, le pouvoir de l'opposition? Alors, dans l'hémicycle, on le voit bien, mais dans les commissions qui où on prépare les lois, est-ce que l'opposition avait un réel rôle et a pu faire avancer des choses?
Nous, on a beaucoup répété, hélas, les mêmes choses pendant 5 ans, mais on n'a rien lâché et jusqu'au bout, on a essayé de convaincre de nos arguments. Après, on est tombé sur un mandat où il était très, très, très compliqué dans l'opposition de faire passer le moindre amendement. Parce que dès que ça venait de l'opposition, c'était très compliqué de faire voter quoi que ce soit. Je pense qu'on a un taux de rejet le plus énorme pendant cette mandature quand on était dans l'opposition. Après, le rôle aussi quand on est dans les commissions, c'est de demander des missions d'information, de demander des rapports. Moi, du coup, j'ai rendu plusieurs rapports sur les EHPAD, sur la psychiatrie. Et ça, c'est important parce que ça donne de la visibilité sur les propositions, mais aussi sur l'actualité à certains niveaux.
Lauriane Rossi, c'est un reproche qui a été fait particulièrement à ce gouvernement de transformer le Parlement en chambre d'enregistrement. Il y a même des députés LREM qui ne sont pas à nouveau candidats à cause de ça. Hugues Granson, par exemple, vice-président de l'Assemblée nationale, en vient à être considéré, et parfois se considérer elle-même, comme une chambre d'enregistrement de décisions élaborées ailleurs. Qu'est-ce que vous répondez à cela ?
Non, ça, moi je ne considère pas que le Parlement soit une chambre d'enregistrement. Et la preuve, que ce soit Caroline Thiat, moi-même et bon nombre d'autres députés, nous déposons beaucoup d'amendements, nous débattons, nous modifions la loi et notre rôle, il est là. Et nous alertons, évidemment, dans le cadre de nos pouvoirs de contrôle et d'évaluation. Donc, il est vrai que la fin du cumul des mandats, la fin du député-maire a pu donner l'impression que le député avait moins de pouvoir qu'auparavant. Moi, je pense que le non-cumul des mandats est une bonne chose. Il faut maintenant, c'est vrai qu'on a expérimenté sous ce quinquennat, le député tout seul, le député sans autre mandat. Certains ont un mandat local, mais et je crois qu'il faut qu'on arrive à renforcer encore ce poids-là, mais il est réel. Et je ne veux pas laisser penser à tous les auditeurs qui nous écoutent que le Parlement n'a pas de pouvoir, c'est faux. Maintenant, il est vrai qu'il y a un rapport de force avec l'exécutif, hein, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, et il faut évidemment parfois rééquilibrer un peu les choses.
Et on verra quel sera ce rapport de force lors du second quinquennat. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu aux questions des auditeurs de France Inter et de ne pas avoir parlé de votre circonscription pour ces questions de temps de parole. 13h44.
France Inter. Le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
L'une de nos invitées du jour appartient à la NUP, l'Alliance de la Gauche. On a connu ça il y a 25 ans?
Oui, absolument. Ça s'appelait la gauche plurielle. C'était une époque de hautes eaux du Parlement.
On verra si c'est comparable. Avance la Constance Debray en lice pour le prix du livre Inter dans son ouvrage. Elle appelle à abolir la filiation et la famille. Et tout de suite, Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Bruno.
C'est une chanson, un grand cascadeur et dresseur équestre est à votre micro aujourd'hui. Mario Lourachi, lui qui a travaillé sur plus de 500 films, il présente un spectacle intitulé Fascination à la halle Tony Garnier de Lyon, samedi et dimanche prochain.
Un spectacle qui vient couronner les 50 années de carrière de celui qu'on présente comme l'homme orchestre du cheval. Cascadeur et dresseur, écuyer, voltigeur dans le milieu du cinéma. C'est une star, Mario Lourachi. Mais dans tous ces spectacles, notamment Fascination, la star, c'est le cheval, parce que le cheval, c'est sa vie.
Je vis, je pense, je parle cheval, quoi, en permanence, avec, Dieu merci, de temps en temps des à côté, parce que je suis un gros collectionneur d'objets indiens et de choses comme ça. Mais avant tout, je voulais parler de cette fascination incroyable qui ne s'est jamais éteinte et qui s'éteindra juste le jour où moi je m'éteindrai, donc l'affaire sera classée. Mais j'aurai eu une vie grâce au cheval qui est exceptionnel, quoi, qui m'a fait rencontrer le monde entier. J'ai beaucoup travaillé avec Matt Damon, avec Heath Ledger, avec plein de gens comme ça, américains. Avec Tommy Lee Jones. J'ai doublé De Funès pendant plus de 10 ans. Il m'a enlevé toutes mes inhibitions qui me permet aujourd'hui de pouvoir présenter Fascination avec une décontraction absolue. Donc c'est fabuleux. J'étais très très ami avec Gilbert Bécaud. Philippe Noiret aussi était mon deuxième papa. J'ai eu l'occasion d'aller à la cour d'Angleterre. J'ai eu l'occasion d'aller partout. Ça vous ouvre toutes les portes, la magie du cheval. C'est extraordinaire.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor, jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy, ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón.
Et là, l'homme qui chante, Frédéric, c'est Antonio Banderas.
Il est accompagné par le groupe Los Lobos. C'est la chanson du mariachi, une chanson tirée de la bande originale du film Desperado avec Antonio Banderas et Salma Hayek. Ouais. Et c'est une chanson très importante pour Mario Lourachi.
Effectivement, c'est ma chanson fétiche, puisque j'ai fait beaucoup de démonstrations, surtout à Deauville, dans la salle des ambassadeurs. Je rentre au grand galop sur la chanson de Banderas et dans tous mes spectacles, au milieu des tables et tout ça, je démarre toujours avec Banderas.
Pour quelle raison?
Parce que c'est une chanson mexicaine, j'ai beaucoup vécu au Mexique, j'ai fait un énorme paquet de films au Mexique, dont Bandidas avec la sublimissime Salma Hayek et la assez jolie Penélope Cruz.
Bandidas.
Malheur pour tout le monde.
Bandidas.
Penélope Cruz, Salma Hayek, un tandem féminin époustouflant.
Hola.
Je préfère Salma, sincèrement. Elle avait un côté très sympathique et très agréable.
Bonne cavalière.
excellente cavalière.
Donc cette chanson vous rappelle le Mexique ?
Me rappelle le Mexique, me transporte, m'amène une espèce de joie, de gaieté. Puis ça va très très bien sur le rythme du travail du cheval entre les tables, parce que les gens qui sont assis se retrouvent avec un cheval à 10 cm de leur tête, donc c'est très impressionnant, quoi. Surtout quand le cheval se cabre et fait des choses un peu étonnantes. Et puis ça se marie merveilleusement bien avec cette joie du mariachi qui est absolument incroyable, quoi. Ça, c'est le bonheur total. Quand vous êtes parti là-dedans, ça vous entraîne, ça vous emmène, vous êtes dans un autre monde.
Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Les chevaux, ils aiment bien cette chanson-là ?
Ils adorent, les chevaux ont un sens du rythme assez extraordinaire, surtout les chevaux dressés en haute école. Il y a quelque chose qui les transporte, ils adorent ça.
Il y a des musiques qui se prêtent plus ou moins au spectacle équestre. Là, on est vraiment dans la musique idéale.
Ah ben là, on est dans la musique parfaite pour faire la fiesta.
La chanson du mariachi Antonio Banderas et le groupe Los Lobos, c'était donc Frédéric, le choix de Mario Luracci.
Luracci qui donne son nouveau spectacle, Mario Luracci. Le spectacle s'appelle Fascination, c'est ce week-end à la Halle Tony Garnier à Lyon.
À demain.
À demain.
Les 10 auteurs en lice pour le prix du livre Inter avec Eva Bétan, c'est notre feuilleton jusqu'à vendredi. Le jury se réunit dimanche et le nom du lauréat ou de la lauréate sera proclamé lundi dans le 7-9 de France Inter. Aujourd'hui, c'est Constance Debray qui est avec Eva. Son livre, publié chez Flammarion, s'appelle « Nom », le nom de famille que porte chacun d'entre nous, qui marque notre filiation, une part de notre identité. Et ce titre, c'est aussi un nom N.O.N. au conformisme, aux assignations. Je suis pour la suppression de l'autorité parentale, l'abolition de la filiation et du nom de famille, écrit Constance Debray. Eva Bétan, quelques éléments sur le livre, puis question à Constance Debray.
La narratrice dit « je », il n'y a pas de cache, et d'ailleurs il ne peut pas y en avoir quand Constance, puisque la narratrice du livre c'est Constance Debray, pense que la littérature doit être exemplaire. Constance Debray poursuit donc son travail de dépouillement et d'écriture, et les deux sont intimement liés. Après « Love Me Tender », nous savions qu'elle avait choisi de ne plus être avocate, de ne plus avoir d'appartement, et là elle va plus loin. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce qu'on peut se débarrasser de ses origines ? Le titre du livre c'est « Nom N-O-M ». Il s'agit de refuser la famille, l'enfance. Et pourtant, c'est elle, Constance, qui accompagnera son père dans les derniers moments de sa vie. Refuser, est-ce que ça veut dire ne pas aimer ? Ce n'est pas sûr. Ce livre va plus loin parce qu'il nous interpelle. Il nous dit il faut se barrer, il faut refuser la vie lamentable. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Comment refuser son identité ?
Il ne s'agit pas de dire qu'il faut, dans la seconde, tous quitter les familles. Dans ce livre, je tiens ce discours en même temps qu'effectivement, je suis là à côté de mon père qui est en train de mourir. Et il n'y a aucune contradiction de mon point de vue. Parce qu'il faut faire les choses en sachant pourquoi on les fait. C'est essayer de se faire sa propre loi, quelque chose qui paraisse juste, et à partir de cet endroit-là, agir en conséquence.
Je voudrais vous lire un extrait de ce livre et qu'on en parle. Si je vis comme je vis, si j'écris ce que j'écris, c'est parce qu'à un moment, quelqu'un doit faire ce que je fais, qu'on n'en peut plus de la petite obscénité de la bourgeoisie et de la petite obscénité des familles et de la petite obscénité de l'enfance, qui sont la même obscénité parce que ces trois choses, la famille, l'enfance, la bourgeoisie, se tiennent la main dans ce cirque fou dans lequel on nous enferme. Au fond, c'est la bourgeoisie qui vous pose problème. Ou c'est la famille qui vous pose problème ?
C'est totalement synonyme. Je crois que la grande peur de la société, c'est le désordre. Et donc, qu'on soit bien rangé dans nos familles, dans le travail, etc. Pour qu'on soit bien rangé dans toutes ces structures, il faut qu'on y croie. On nous inculque la foi dans la famille et qu'il n'y a pas de vie qui puisse se dérouler hors de ces structures. Donc, je pense juste qu'il faut se dire, mais non, ces structures n'existent pas en tant que telles.
C'est un cheminement philosophique d'une certaine manière, c'est un cheminement intérieur que vous menez. Est-ce qu'il y a un cheminement politique aussi ?
Nécessairement, critiquer la famille, la foi dans cette société matérialiste, que ce soit par la consommation ou la propriété, c'est critiquer la société. Donc c'est évidemment une position politique.
Votre livre va plus loin que les livres précédents parce que j'ai l'impression que vous voulez nous atteindre, nous lecteurs.
La littérature, c'est quand même essayer de parler plus largement d'à peu près tous les sujets et en son nom, en mettant son nom sur la couverture et son corps dans les pages. Et donc ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et donc oui, bien sûr que je m'adresse aux lecteurs, je m'adresse aux autres, en leur disant, voilà, moi je fais comme ça, je pense comme ça, venez avec moi, vous laissez pas enfermer par des fausses pensées. C'est-à-dire par des croyances. Essayez de voir en vous-même si toutes ces choses, ce sont des choses que vous pensez vraiment, ou si non. Ou si en réalité, oui, vous avez pris pour acquis des pensées, des croyances qu'on vous a inculquées, mais regardez, moi j'essaye de déplacer un peu les choses, et alors, vous en êtes où? Voilà, trouvez votre voie.
Et celui ou celle qui gagnera le prix du Livre Inter sera aussi dans le studio du 13-14, lundi prochain, cher Jean Lebrun.
France Inter. Le 13-14.
Qui est là pour le vif de l'histoire après les législatives de 97. Lionel Jospin entrait à Matignon à la tête de la gauche plurielle. Quel parallèle peut-on faire entre cette gauche plurielle et la NUP mise en place par Jean-Luc Mélenchon?
La victoire de la gauche, c'était d'abord une défaite de la droite à l'époque. Alain Juppé, Premier ministre, 95-97, on se souvient. Et puis, cette défaite intervenait non pas au lendemain de la présidentielle, mais 2 ans après. Autre différence avec 2022. À gauche, le primat, souvenez-vous, appartenait au Parti Socialiste. Attendez, Lionel Jospin refusait de parler de force dominante. Le PS, disait-il, donne sa cohérence stabilisatrice à la coalition. Néanmoins, les autres partis qui la composaient étaient très loin derrière. Les Verts, le PC se disputaient la deuxième place. Comptait aussi le mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement. Chevènement qui a été nommé à l'intérieur. C'était pas comme aujourd'hui un gouvernement technique, hein. Le choix était fait de personnalités dotées d'un fort capital politique. Je veux un débat ouvert, répétait Jospin. Les ministres et secrétaires d'État n'étaient cependant pour les alliés du Parti Socialiste que 8 sur 26, mais il y avait Voynet pour les Verts, Guessot, Buffet pour le PC.
Et Jean-Luc Mélenchon?
Enfin non, Jean-Luc Mélenchon aurait bien voulu être du premier cabinet, mais ses camarades de la gauche du PS l'avaient dissuadé. Alors il a intégré finalement l'équipage en 2000 comme ministre délégué à l'enseignement professionnel. Quand il a appris qu'il devrait travailler avec Jacques Lang, éducation nationale, il aurait dit « Bon, quand on épouse aussi la belle-mère et le chien ». Enfin, les deux hommes ont écopé ensemble les dégâts causés par Claude Allègre, comme le remarquait Lionel Jospin à propos de son ancien ministre de l'éducation nationale. On peut pas avoir longtemps raison seul contre le public qu'on doit administrer.
Alors, il y a eu d'autres couacs que ceux provoqués par Claude Allègre. Le gouvernement représentait aussi des clientèles difficiles à satisfaire et à combiner.
Oui, mais Jospin ne professait pas que les gauches étaient irréconciliables. Et à l'époque, son communicant, souvenez-vous, c'était Emmanuel Valls, n'aurait pas osé pareille affirmation non plus. Alors évidemment, les occasions de conflit n'ont pas manqué. C'est Dominique Voynet qui en provoqua le plus grand nombre. L'extension de Roissy, la taxation du gazoil, etc. Les Verts avaient signé avec les socialistes un texte politique commun qu'ils considéraient comme un contrat, alors que Jospin ne se sentait qu'à moitié lié avec un parti écologiste divisé. À dire le vrai, il avait du mal à voir dans l'écologie un levier du renouveau de la gauche. Il n'avait pas non plus été passionné par telle ou telle réforme sociétale qu'on lui proposait, mais il avait fini par voir dans le PACS une opportunité politique de premier ordre pour la gauche. Alors, c'est pas le lieu d'énumérer tous les textes qu'il a fait voter, les 35 heures, les emplois jeunes, la police de proximité, ni les réformes que la droite lui a reproché de ne pas avoir entreprises, sur les retraites notamment, alors que la conjoncture économique et la situation de l'emploi s'amélioraient. Au moment où Jean-Luc Mélenchon nous promet une reparlementarisation, on peut noter en revanche qu'à nul moment important, le gouvernement n'a été durablement mis en minorité. Il n'y eut jamais besoin du 49-3, observe le ministre des Relations avec le Parlement de l'époque, Daniel Vaillant. Et pourtant, ajoute-t-il, je n'étais nullement un garde-chiourme. Il est vrai que lorsque les communistes étaient tentés de contester, les divisions internes de leur groupe apparaissaient telles qu'ils finissaient par s'abstenir et ça donnait de la marge.
Allez, autre élément de rapprochement avec aujourd'hui, la gauche pluriel gouvernait par temps de cohabitation, ce qui serait le cas en cas de victoire de la gauche cette année.
Ça n'a pas été facile, hein. Ça a été même de plus en plus difficile à mesure que Jacques Chirac commençait à retrouver du crédit politique et que se profilait un nouveau scrutin présidentiel, celui de 2022. Qui était
2002.
Celui de 2002. Oui. Qui était, je confonds les époques, parce que qui était la porte-parole de Jacques Chirac?
Catherine Colonna.
Bravo Bruno. Il convient d'ajouter que Lionel Jospin pris la responsabilité d'introduire le quinquennat L'initiative en est revenue largement à Valéry Giscard d'Estaing, ravi de jouer un mauvais tour à son meilleur ennemi Chirac. Celui-ci a renoncé à faire barrage et a accepté de poser la question par référendum. Alors les contemporains, vous n'en êtes pas, vous êtes trop jeunes, ne se souviennent pas d'avoir voté oui en septembre 2000. Évidemment, 70% d'entre nous se sont abstenus. Ce scrutin aurait pu sonner l'alerte. Attention, désaffection.
Et là, j'avais déjà l'âge de voter, cher Jean Lebrun. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Quel est le programme de la Terre au Carré aujourd'hui?
Eh bien, nous allons traquer le champignon tueur de grenouilles dans les montagnes pyrénéennes.
À tout de suite.